Jérémy Ferrari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes humoriste, on vous a découvert dans l'émission de Laurent Ruquier, on ne demande qu'à en rire. Vous êtes connu pour votre humour noir, grinçant et des thèmes pas politiquement corrects. Vous êtes passé ensuite de la page spectacle à la page politique. Quand vous avez interpellé le Premier ministre Manuel Valls, c'était au sujet de la présence du président du Gabon Ali Bongo à la manif après les attentats de Charlie Hebdo. Et votre dernier spectacle s'appelle « Vend deux pièces à Beyrouth ». C'est le premier spectacle d'humour sur la guerre. Ce fut complet à Paris en quelques jours, représentation doublée. Votre service de presse annonce 200 000 personnes en salle et 67 menaces de mort. Vraiment ?
Je pense qu'il y a eu un peu moins de menaces de mort. C'était un peu pour la
vanne, mais du lent. Vous en avez eu ?
Oui, mais bon, après encore une fois, c'est quand même très anecdotique.
Attendez, me dites pas encore une fois, c'est votre première réponse à la première question.
Non, mais parce que c'est évidemment une question qu'on me pose souvent, parce qu'on avait lancé un peu le pitch du nouveau spectacle. On avait évoqué ces menaces de mort qui arrivaient de temps en temps, mais c'était plus pour rire, parce que de toute façon, un mec qui vous menace de mort, c'est pas un mec qui va venir vous buter. Enfin, je veux dire, si vous voulez tuer quelqu'un, vous n'avez pas lui envoyé un mail avant. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est quand même plutôt drôle.
Je vous entends rire, vous parlez de drôlerie. Pourquoi un spectacle d'humour sur la guerre ? Je formulais la question différemment. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?
Alors, ce qu'il y a de drôle dans la guerre, il y a rien de drôle dans la guerre. Ce qui est drôle, c'est ce qu'on en fait et ce qu'on dénonce, c'est l'absurdité des situations. Je pense qu'en fait, on n'est jamais aussi fort que la réalité. C'est pour ça qu'en fait, je ne prends que des spectacles à thème et que je ne traite que des sujets existants. Déjà de une, parce que ça permet de faire effectivement de l'humour provoque et noir, mais pas gratuitement, parce qu'il y a toujours une vérité. On part sur un truc existant. Et puis, ce qui est drôle, c'est l'absurdité, c'est-à-dire que il y a des mecs que la guerre rend heureux. Donc c'est ça qui me fait rire, parce que c'est tellement absurde et cynique que ça en devient drôle.
Au début du spectacle, vous désignez un spectateur dans la salle.
Oui, en fait, je désigne un chef de sécurité qui est censé gérer le public du fond en cas d'attaque terroriste.
Et comment le public le prend ?
Il le prend très bien, en fait, ça les fait beaucoup rire parce que justement, c'est très très culotté. En fait, quand j'ai écrit le spectacle sur la guerre et la religion, effectivement, il y a eu entre-temps des attentats, donc j'étais obligé de le traiter puisque ça faisait partie du thème du spectacle. Et du coup, je savais pas comment le traiter parce que c'était vraiment très très frais, et je me suis dit en fait le meilleur moyen de le traiter, c'est très frontalement en fait.
Il y a une séquence qui fait hurler de rire le public, c'est l'agression de la station service et du pompiste par les frères Kouachi. Vous imaginez ce que le pompiste répond à la police qui lui demande de retenir les frères Kouachi dans sa station service.
Oui, parce qu'en fait la police en fait voilà demande aux gars, ouais, essayer de les retenir, etc. Il dit, mais je peux pas les retenir, ils ont des kalachnikovs, moi j'ai des mantos. Parce que c'est ça en fait, c'est que je crois qu'on peut pas, souvent on demande aux gens de faire des choses qui sont totalement absurdes parce qu'on ne peut pas réagir à ce genre de situation.
Je veux dire, ce qui m'a frappé, c'est que sur votre site, il y a un bouton. Cliquez ici pour télécharger les sources vérifiées du spectacle. Ça fait 1,08 giga. Toutes les infos sur lesquelles vous appuyez pour faire votre spectacle. Et j'ai appris par exemple qu'Al-Qaïda avait inventé la bombe anale. C'est quoi la bombe anale ?
Bah en fait oui, j'évoque aussi des choses comme ça effectivement, et oui bah en fait ils ont une, alors attends, je réponds à quoi, au dossier ou au bombe anale ?
Non, bon, la bombe anale, c'est vraiment dingue, parce que j'ai cru que c'était une blague.
Ah non,
parce que quand on le voit dans votre spectacle, on pense que c'est une blague. Or, ça existe vraiment.
Oui, en fait, tout ce que je raconte dans le spectacle est vrai. Effectivement, pour encore une fois montrer l'absurdité, effectivement, ils avaient eu cette idée de s'insérer des bombes dans l'anus, pour passer des trucs de sécurité, etc., sans être pris. Et donc, ce mec arrive, là, en l'occurrence, il y a eu d'autres accidents, mais celui-là m'a beaucoup fait rire. C'est un gars qui arrive dans une tente. Vous savez, les Saoudiens, ils font des grandes tentes comme ça. Les gars viennent demander de la thune, etc. Et le gars attend 30 heures dans la file d'attente pour arriver devant le prince avec des bombes dans l'anus, et il arrive devant le mec, il déclenche, et ça ne tue que lui. Donc c'est ce genre de truc en fait, c'est que dans l'horreur, il y a des choses tellement absurdes en fait que ça en devient drôle.
Toute la presse a beaucoup aimé, j'ai trouvé 2-3 petites critiques, très faibles. Seul bémol, écrit le Parisien, à force d'attaquer politique, médias et ONG, le Zorro de l'humour, c'est vous, flirte avec un nihilisme démagogue. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Bah... En fait, c'est toujours la même chose. Si vous dites rien, vous êtes passif. Si vous dites quelque chose, vous êtes démago. Moi, ça me va très bien d'être démago. Je pense que si dire les politiques se foutent de notre gueule, arrêtez de prendre les gens pour des cons et sauver les dauphins, si c'est être démago, ça me va très bien. Moi, ça me va très bien.
Jérémy Ferrari avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Jérémy Ferrari avec nous, l'humoriste qui en tournée avec son spectacle vend deux pièces à Beyrouth, qui a triomphé à Paris. C'est le mot consacré et c'est vrai. Et là, vous êtes en tournée dans toute la France. Je peux pas donner toutes les dates. Je veux juste dire que le 30 mars, vous serez à Rennes. Ensuite, il y aura Caen. Début avril, ensuite il y aura Angers, Orléans, Dijon, Besançon, Grenoble, Saint-Étienne, Montpellier, Toulouse, Marseille, Nice, Chambéry, Lyon, Lausanne, Genève, Tours. Je dis pas toutes, plus un passage sur l'île de la Réunion. Je dis pas toutes, c'est sur votre site. Sinon, il nous faudrait 5 ou 6 minutes pour tout annoncer. J'en ai parlé au début. Vous avez vécu une séquence très remarquée dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. C'était en janvier 2016. Vous aviez interpellé le Premier ministre Manuel Valls au sujet de la présence du président du Gabon Ali Bongo à la manifestation du 11 janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que c'était prémédité?
Non, au contraire, c'était même très très risqué parce que
c'est pas la même chose. Ça peut être risqué et prémédité. Est-ce que vous avez prévu votre coup
non,
et
non,
le thème
mais
aussi
je dis que c'était risqué et pas prémédité parce que justement, c'était la première promo du spectacle que je savais que Laurent, Yann et Léa avaient aimé la promo. Donc j'avais juste à aller m'asseoir et à entendre finalement eux dire des gentillesses de mon spectacle et que cette intervention avec Valls, ça aurait pu me coûter la crédibilité de mon spectacle parce que je l'ai attaqué sur la géopolitique. Donc si à ce moment-là, je m'en étais pas bien sorti, je perdais toute crédibilité sur le thème de mon spectacle ensuite. Donc c'est pour ça que je dis que c'était un risque et que c'était évidemment pas du tout prémédité.
Incident diplomatique, parce que Manuel Valls a reconnu sur le plateau que Ali Bongo, je le cite, n'a pas été élu au sens où on l'entend. Et incident diplomatique, ça vous fait rigoler. Évidemment, au Gabon, ça vous a fait marrer. Donc
ça me fait rire parce qu'en fait, il a déjà perdu à partir du moment où il ne me contredit pas quand je dis que c'est un dictateur. Mais en fait, comme moi je le dis de manière tellement détendue, comme dans son inconscient, il sait très bien, enfin dans son conscient, il est totalement conscient que ce mec est un dictateur. Donc sauf qu'il a jamais quelqu'un en face de lui qui lui dit avec cette détente le mec est un dictateur. Donc du coup en fait son cerveau relève pas l'information parce qu'en fait il est d'accord avec moi. Donc en fait du coup une fois qu'il a continué la conversation sans m'avoir arrêté sur ce sujet là c'est déjà trop tard. Donc au final il essaie juste de se dépatouiller de ce qu'il a pas dit.
On a appris mercredi que Manuel Valls allait suivre Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Je crois pas que ce soit une très bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, mais je crois pas que ça va l'aider beaucoup.
D'où vous vient ce goût, si tant est qu'il y a une explication, pour l'humour acide?
En fait, je me suis jamais posé cette question. C'est juste l'humour que je faisais moi au quotidien. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'humour qu'on fait au quotidien. Hein, parce que,
ah bon?
Ce que je veux dire, c'est que nous, dans la vie de tous les jours, on fait quoi? On se moque, on se taquine, on rit. Donc on fait de l'humour noir, nous, au quotidien, perpétuellement. On se moque des copains, on se moque de la famille, on se moque des collègues de boulot. Donc,
mais une fois qu'on est sur scène, c'est interdit.
La preuve que non. Moi, je le fais. Mais je me suis pas posé cette question. Vous voyez, j'ai juste écrit ce qui me venait sans vraiment me poser la question du tout.
Où est-ce que vous en êtes avec les producteurs du film Les Têtes de l'Emploi?
C'est au tribunal.
Alors, je vais raconter, c'était un film avec Franck Dubosc, Elsa Zilberstein, François-Xavier Demaison qui était sorti en novembre dernier. Je résume, l'idée était de vous. Vous écrivez le scénario. Le producteur est pas très content du scénario. Avec votre accord, il appelle d'autres auteurs. C'est pas ça l'histoire.
C'est pas du tout ça. Non. L'histoire, c'est que j'écris un scénario. Le producteur est très content du scénario. J'appelle Franck Dubosc, qui est un ami, pour lui proposer le second rôle du film. Enfin, il y a pas de second rôle parce que c'est un film choral. Mais donc voilà, je lui dis il y a un rôle qui pourrait t'intéresser. Il est ok. De là, en fait, finalement, son agent veut qu'il fasse le premier rôle. Je suis pas trop chaud parce que c'est pas une question de premier rôle. C'est que le premier rôle, je l'avais vraiment écrit pour moi. Mais bon, j'accepte. Et donc moi, je devais jouer le deuxième ou le troisième. Et de là, en fait, des réalisateurs sont implantés sur le sujet. Et les réalisateurs, avec Franck apparemment, puisque là, il a été crédité en tant qu'auteur, réécrivent en fait le scénario sur lequel tout le monde était d'accord. Ils le réécrivent énormément. Je refuse cette nouvelle version. Ils partent quand même en tournage, sans mon accord. Et de là, je refuse que mon nom soit au générique. Je refuse de jouer dedans. Et je les attaque en justice. Donc là, c'est au tribunal.
Alors désormais, vous leur réclamez 600 000 euros.
Alors évidemment, je demande pas. Oui, c'est marqué 600 000 euros, mais c'est des sommes comme ça qui sont proposées de manière symbolique par les avocats, bien évidemment, parce qu'ils demandent toujours des sommes beaucoup plus grandes pour essayer d'obtenir autre chose. Mais la vérité, c'est que je ne fais évidemment le procès, je le fais pas pour l'argent, parce que ils m'ont proposé de l'argent avant qu'on aille au tribunal pour pas aller au tribunal, et j'ai refusé. Donc je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour qu'on reconnaisse qu'ils ont pris mon histoire et qu'ils l'ont modifiée sans mon accord. C'est ça que je veux prouver.
Jérémy Ferrari avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. L'humoriste Jérémy Ferrari avec nous en tournée dans toute la France, mais ici au micro. Vous lisez les articles qu'il a écrits sur vous?
De temps en temps, j'arrive pas à les voir tous, mais j'essaie de les lire au maximum.
Oh, dis donc, il y en a tant que ça?
Non, mais vous savez, avec Internet, il y a tellement une multiplication maintenant des blogs et des machins et des trucs que voilà, mais j'essaie de lire à peu près tout.
Est-il vrai que vos parents étaient petits commerçants épiciers?
Oui, c'est vrai.
Alors le Figaro a vu autre chose, il a dit des parents smicards.
Ça c'est parce que moi je leur dis que ça y reprenne une phrase de mon spectacle parce que je dis que mes parents sont pauvres et qu'ils m'énervent.
Oui mais pauvre et smicard c'est pas la même chose.
Non mais je les traite de pauvres et de smicard, c'est des vannes.
En général les comiques étaient de bons élèves, vous êtes un ancien cancre?
Oui, je suis toujours un cancre hein, parce que de toute façon j'ai abandonné les études très très jeune, donc ouais j'étais très mauvais élève.
Pourquoi vous étiez mauvais élève avec la vivacité d'esprit que vous semblez manifester en toutes circonstances?
J'étais dans un vrai refus de la manière dont on nous enseignait en fait à l'école. J'avais l'impression qu'on prédigérait des réflexions pour moi et ça me bloquait vraiment pour apprendre.
Vous avez fait plein de petits boulots. Vous avez été prof de judo, c'est vrai?
Prof de jiu-jitsu, ouais.
Est-il vrai que vous étiez agent de sécurité au Stade de France?
Ouais, je gardais des parkings.
Pourquoi ça vous fait rire?
Parce que je me rappelle de cette vie où je me retrouvais à 2h du matin devant des bus en doudoune, et ça me fait rire.
Est-il vrai que vous avez été conseiller clientèle chez Orange?
Oui. Tout à fait. J'étais quand vous cassiez votre téléphone ou quand vous aviez un problème avec votre téléphone, vous pouviez tomber sur moi quand vous appeliez votre service client.
Et alors vous étiez comment?
Je me suis plutôt bien amusé sur ces trucs-là.
Mais vous étiez à la cool?
Ouais, j'étais à la cool.
Puis vous étiez ah non monsieur, on peut rien pour vous, je suis désolé.
Non mais moi je prenais rien, j'ai jamais rien pris au sérieux, donc là évidemment je me suis beaucoup amusé. Là j'ai quand même vraiment beaucoup rigolé.
Du genre?
Je sais pas, un client qui m'appelle et qui me dit je sais pas ce qui se passe, il est en panique, je sais pas ce qui se passe, mon téléphone clignote, je dis clignote comment? Il me dit clignote de tel clignote rouge et tout, je dis couchez-vous. Je faisais que des trucs comme ça au client, je faisais que des conneries comme ça. C'était vraiment, je me marrais vraiment beaucoup.
Est-il vrai que vous avez été déménageur?
Oui, quand je faisais de l'intérim, j'avais des missions de déménageur.
Et c'est une impression que vous avez fondu?
J'ai perdu quelques kilos, hein. J'ai
pas
perdu 3-4 kilos.
Pas 3-4.
Ah si, vraiment.
Ah dis donc, il y a des papiers qui disaient, il est un peu rondouillard comme Michael Youn. Pardon, Michael Youn.
Ils sont tous papiers. Non mais après, c'est parce qu'en fait, il y a 5 ans, en fait, je me suis blessé au genou. Et du coup, j'ai dû arrêter complètement le sport. Et donc, pendant un an, j'avais vraiment pris du poids. Mais là, je veux dire, par rapport à mon poids normal, là, j'ai reperdu 3-4 kilos. Mais la période où j'étais un peu rondouillard comme Michael Youn, c'était il y a 5 ans déjà.
Il va être content s'il nous entend. Est-il vrai que vous refusez de parler d'argent et que vous refusez de parler chiffres?
Oui.
Pour quelle raison?
Parce que je trouve que, enfin, en fait non. Pourquoi je dis oui en fait? Non, non. Je refuse pas de parler argent et de parler chiffres. Je dis simplement que si on parle de chiffres, il faut le faire dans des contextes et expliquer ce que ça veut dire. Parce que comme j'ai conscience de la valeur de l'argent, je dis juste qu'un chiffre dit comme ça hors contexte, c'est un peu absurde.
Est-il vrai que vous avez acheté une maison dans le sud à vos parents?
J'ai acheté une maison à mes parents. Bah, c'est leur maison, c'est pas une maison de retraite ou une deuxième maison, c'est leur maison.
Quand leur commerce a coulé.
Ouais. Ouais. Un peu plus tard, parce que quand le commerce a coulé, moi, j'avais pas les moyens d'acheter une maison, j'avais déjà pas les moyens de payer la mienne, donc payer mon loyer. Mais oui, après, j'ai acheté une maison à mes parents.
Est-il vrai que vous préparez un film, un biopic, mais alors là, pas n'importe quel biopic, la vie de Philippe Croizon, qui est le sportif amputé des 4 membres?
Oui, ça, c'est vrai.
Ah
ça,
bon?
Ça,
ouais, ah bah, j'étais sûr que c'était une vanne.
Non.
Vous allez faire quoi? Ça va être un vrai film ou un film comique?
Non, c'est un vrai film. En fait, je voudrais.
Mais avec des blagues?
Bah, s'il y a des blagues.
Vous allez l'appeler comment?
Ah, je ne sais pas, j'ai pas trouvé.
Non, mais ça va être pas de bras, pas de chocolat, ou
non?
Un...
c'est pas une comédie. En fait, je veux vraiment, on va vraiment écrire le récit de cette traversée des 5 continents qu'il a faite à la nage, qui est quand même un truc incroyable. Parce que, et en fait, comme lui dit toujours, il y a 2 choses qui m'ont sauvé, c'est l'humour et mes enfants. Et c'est vrai, c'est un mec qui est très très drôle dans la vie, mais c'est pas une comédie. Je vais pas l'axer en comédie. Je vais raconter vraiment ce qui s'est passé. Je mettrai l'humour quand il y en a, parce qu'il y a des moments très très drôles dans sa vie.
Et vous en êtes où du tournage?
Pour l'instant, on est en écriture, ça va. Je vais bien choisir les producteurs. Et je vais peut-être pas appeler Franck Dubos pour jouer le premier rôle.
Bah déjà, faudra l'amputer.
Ouais. Bah, peut-être je vais l'engager alors pour faire le premier rôle.
Merci beaucoup, Jérémy Ferrari, d'être venu nous voir.
Merci à vous, Philippe.